Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 20. On va lire ensemble une parabole qui est bien connue. Donc Matthieu chapitre 20, des versets 1 à 16. Je pense que vous connaissez peut-être tous cette histoire. Donc Matthieu 20. Versets 1 à 16, et je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9h du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Il leur dit « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi et vers 3h de l'après-midi et il fit de même. Il sortit enfin vers 5h de l'après-midi et en trouva d'autres qui étaient là sans travail. Il leur dit « Pourquoi « Vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler ?» Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a embauchés. « Allez-vous aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de 5h de l'après-midi vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire en disant « Ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'une heure et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens ? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. » Car le royaume des cieux ou de Dieu est semblable à... Car le royaume de Dieu est semblable à... On a souvent cette phrase qui revient. Et moi, dès que je l'entends, dès que je le vois dans la parole, je suis réjoui, parce que j'ai un peu comme l'impression que Jésus, il ouvre une petite fenêtre, et il ouvre une petite, il tire un peu les rideaux et il nous donne un petit aperçu, un petit avant-goût de son royaume. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se rappellent d'autres histoires qui parlent du royaume des cieux? Est-ce qu'il y a des, vous vous souvenez comme ça d'exemples dans la parole? Comme ça de tête, hein? Yes, royaume des cieux, c'est comme un grain de moutarde. Est-ce qu'il y en a, d'autres? Un trésor qu'on cache. On a aussi le roi qui pardonne. Et du coup, il faut d'autant plus pardonner. On a un filet qui est jeté dans la mer et beaucoup de choses qui sont ressorties. On fait le tri entre les bonnes et les mauvaises choses. On a les dames qui attendent avec leurs lampes. Qui attendent la venue du maître de maison. Voilà, il y en a beaucoup. Et souvent, ces histoires peuvent un peu heurter notre logique humaine, notre sagesse humaine. Et d'ailleurs, tout au long de Matthieu, on voit que Jésus renverse vraiment les paradigmes ou la logique humaine. On va étudier ça, le sermon sur la montagne, à partir de cette semaine, mardi soir. Et on a vraiment un royaume, un monde, une façon de voir le monde qui est renversée. Et là, la conclusion, ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers, ça ne fait pas forcément sens pour nous. Et moi, pourquoi j'ai choisi ce texte? Parce qu'elle m'a titillé. Mais comment ça se fait? Ils ont travaillé plus que les autres et ils sont payés la même chose. C'est bizarre quand même. C'est quoi cette histoire? Donc je vais vous donner un peu le contexte de cette histoire. En fait, cette histoire, Jésus l'utilise pour répondre à Pierre, donc son disciple, qui s'inquiète. Alors pourquoi est-ce qu'il s'inquiète? Je vais vous la faire courte. Mais juste avant, dans le chapitre 19, on a cette histoire du jeune homme riche qui vient et qui dit, qui prétend avoir tout fait bien et qui n'est pas prêt à renoncer à sa richesse. C'est Jésus qui dit que c'est quasi impossible à un riche de venir dans le royaume des cieux. Et sur quoi les disciples ont dit, mais si un riche, quelqu'un qui a été bien toute sa vie, n'arrive pas à y aller, mais qui peut y aller? Et Jésus répond cette phrase inquiétante pour les disciples, en tout cas. Personne peut y aller. Pas par leur propre force. C'est, il y a que Dieu qui peut faire ça. Et donc, Pierre, il s'inquiète, mais Jésus, on a tout laissé derrière nous, là. On a tout abandonné. On t'a suivi. Je crois qu'on avait compris que t'étais le Messie. Voilà. Est-ce qu'on s'est trompé sur la marchandise, quoi? Est-ce qu'on a tout laissé pour finalement pas pouvoir rentrer dans ton royaume? Donc Jésus, il le rassure. Donc d'abord, Matthieu 19, 28, on va le lire, c'est très clair ce qu'il dit au niveau de cette récompense. Donc 19, verset 28. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » Donc il commence Jésus en répondant par une promesse qui est forte, qui est, j'imagine, pour les disciples bien rassurant, même pour nous, hein, qui essayons de suivre Jésus. On est rassuré, on s'était pas compris sur le message de l'évangile. Mais après, dans Matthieu 30, il rajoute cette phrase, « Bien des premiers seront des derniers, et bien des derniers seront les premiers. » Donc qu'est-ce que ça indique? Ça indique que, oui, on va tous recevoir une récompense qui est au centuple de ce qu'on a pu lâcher. Mais on risque d'être surpris parce que la manière de donner cette récompense, elle n'est pas forcément celui auquel on s'attend. Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, derrière ce passage, donc après dans le passage, c'est cette fameuse passage où la mère de deux disciples demande « Est-ce que mes fils peuvent être à la droite et à la gauche ?» Donc on voit que les disciples ils sont quand même bien fixés sur cette belle récompense qu'ils vont avoir. On peut même se demander s'ils ont bien compris l'histoire qu'on va essayer de décortiquer un peu aujourd'hui. Donc ça, c'est dans ce contexte que Jésus donne ce parabole qui, le royaume de Dieu est semblable à. Donc il va nous donner dans des termes simples, notamment pour l'époque. Il utilisait ces images qui sortaient de la vie ordinaire des gens dont les gens ils pouvaient vraiment utiliser pour comprendre. Nous, le travail, on connaît. Le salaire, on connaît aussi. Travail journalier, bon, c'est un peu moins. Aujourd'hui, dans certaines régions, je lisais en Inde notamment, il y a des milliers de personnes qui se ruent dans la rue dès le matin. Et qui des employeurs viennent et en embauchent certains. Nous en France, on voit ça parfois à Paris dans les chantiers, souvent avec des travailleurs migrants qui peuvent être des salariés, des entreprises peuvent venir embaucher quelques personnes pour travailler chaque jour. Mais ici, c'était quelque chose qui était vraiment très commun à l'époque. Donc les gens pouvaient vraiment très bien comprendre ce qui se passait. Donc souvent des travailleurs journaliers, c'est des personnes Nous, on le voit dans nos vies, mais aussi à l'époque, c'était des gens dans une certaine précarité, quoi, dans une certaine instabilité. Ils savaient pas de quoi allait être fait leur lendemain. Est-ce qu'ils allaient avoir assez pour vivre, etc. Mais ça reste une parabole qui semble de prime abord assez difficile à bien comprendre. Et même au fur et à mesure du temps, l'Église, les théologiens n'ont pas forcément tous interprété cette parabole de la même manière. Au Moyen-Âge et un peu au début des Églises, on peut voir qu'ils prenaient vraiment cela comme l'histoire du salut. Donc, c'est-à-dire au début, il y avait les Juifs qui avaient un peu un contrat avec Dieu. Nous, on agit bien. Et on va ensuite au paradis, donc on a notre récompense. Et après, on a les heures qui sont bien détaillées, 9h, 13h, 17h, voilà. Chaque étape représenterait pour certains une époque de l'histoire biblique, en finissant avec les chrétiens qui, eux, parfois, ils font confiance à ce propriétaire pour les embaucher. Il y a eu aussi cette idée de vigne, ça peut faire penser à l'Église. Donc Martin Luther, il travaille un peu plus le côté professionnel avec les nonnes, etc., qui s'occupaient de l'Église. Donc il y a eu plein de manières de le regarder. Mais il y a quand même un tout petit problème si on regarde vraiment cette histoire que sous l'angle précis du salut. C'est que c'est très clair dans l'ensemble de l'Évangile que le salut est gratuit et pas relié à notre travail. Éphésiens 2, on était dans Éphésiens, car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter. Donc, beaucoup de théologiens un peu plus actuels se disent, on peut pas juste parler de, ils parlent pas du salut là. Ils parlent d'autre chose, de ses récompenses. Donc, clairement, cette illustration, c'est pas une illustration parfaite de la grâce de Dieu, parce qu'il y a quand même un travail qui est là. Même si ce travail illustre quand même la grâce de Dieu. Le fait de servir Dieu, le fait de travailler dans la vigne, est un cadeau. Tout ce qui nous a été donné, c'est un cadeau. Dans 1 Corinthiens 4, verset 7, « Car qui te confère une distinction, qu'as-tu qui ne t'a pas été donné ? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Donc même le fait d'aller travailler dans cette vigne, c'est une grâce. On peut aller plus loin en disant que le succès de notre service à Dieu, c'est aussi une grâce. On a cette fameuse phrase, « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. » Donc même le fruit de notre travail, c'est une grâce. Et on peut même aller plus loin en disant que le fait de souffrir est une grâce. Et donc... Là, dans Matthieu 5, « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répondront toutes sortes de calomnies sur vous, votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. » Autant, on revient sur cette idée de récompense. Donc, a priori, dans ce passage, on va dire que ça ne parle pas exactement du salut, mais plus... des récompenses qu'on peut s'attendre, des récompenses auxquelles pouvaient s'attendre les disciples dans les cieux. Mais subsistent plein de questions dans ce parabole. Il y a quand même des choses assez étranges. Donc, déjà, une première question, peut-être de l'époque, parce que À l'époque, les propriétaires terriens, ils se mélangeaient pas forcément avec ces gens. Mais pourquoi est-ce que lui, c'est lui, alors même qu'on sait qu'il a un intendant, pourquoi est-ce que c'est lui qui va dans la ville embaucher? Pourquoi est-ce que c'est lui qui, pourquoi est-ce qu'il y va plusieurs fois? Est-ce qu'il est incompétent? Est-ce qu'il est, il sait pas exactement combien de récoltes il va y avoir? Il y a plein de questions. Pourquoi est-ce qu'il paye d'abord les derniers? Voilà, est-ce qu'il gère pas très bien? Il a l'air surpris aussi que les gens ne travaillent pas. Est-ce qu'il n'est pas au courant de leur situation? Donc il y a plein de questions qu'on peut se poser. Mais je pense qu'elle nous parle de Dieu. Il n'y a pas toutes les réponses, notamment pourquoi est-ce qu'il donne plus à d'autres. Mais elle nous montre le cœur de ce travailleur, le cœur de ce propriétaire. Il s'intéresse au peuple, il a envie d'aller à l'encontre de ce peuple, de ces personnes, comme Jésus qui est venu, le Dieu venu parmi nous. Il s'intéresse à ce qu'ils font. Il s'intéresse à l'utilisation de leur temps. Pourquoi vous ne travaillez pas? Et il leur donne des choses à faire. Je me retrouve juste. On voit bien aussi que le salaire est un cadeau. Il se soucie de leur vie. Dans Deutéronome 24, on a une phrase qui parle notamment dans la loi, qui parle des ouvriers journaliers. Donc Deutéronome 24, versets 14 à 16, « Tu n'exploiteras pas l'ouvrier journalier qui est d'humble condition ou pauvre, qu'il s'agisse d'un Israélite ou d'un immigré habitant chez toi, dans ton pays. » Tu lui donneras un salaire chaque jour avant le coucher du soleil, car étant pauvre, il attend sa paye avec impatience. Sinon, il en appellerait à l'Éternel contre toi et tu porterais la responsabilité d'un péché. Donc la logique de ce propriétaire terrien, c'est pas du tout une logique comme dans notre société où on se dit on va essayer de produire avec le moins de ressources possible. Là, il essaie de produire en distribuant au maximum ses ressources. Il donne le même salaire, un salaire journalier, un salaire pour vivre convenablement à ceux qui ont travaillé qu'une heure et ceux du début. Donc on a vraiment un propriétaire qui est pas dans une logique, parce qu'on aurait pu se dire oui, voilà, au début il embauche que certaines personnes parce qu'il veut vraiment juste prendre le minimum. Non, c'est pas sa logique, il est dans une sorte de générosité, mais qu'on comprend pas forcément. Je me rappelle personnellement, j'étais contrôleur de gestion dans une clinique, et du coup j'avais lors d'une de mes missions besoin de consulter les salaires des personnes dans l'entreprise. Et je peux vous dire que ma fierté en a pris un coup. Quand je voyais ce que moi je gagnais par rapport à ceux d'autres. Et ça m'a même bloqué dans mon travail pendant un temps. Je n'arrivais plus à travailler parce que j'étais là, mais je me suis fait complètement avoir. Alors que non, j'avais négocié mon contrat, j'avais eu ce que Mais pendant un temps, j'étais remonté. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de choses. Mes enfants, quand Eleanor avait un gala de danse l'autre jour, et puis elle a reçu des bonbons. Et quand son frère a appris ça, il l'a tapé, quoi. Il n'était pas content. Lui, il n'a pas eu de bonbons, elle en a eu. Et dans notre société même, cette idée d'égalité, c'est quelque chose de super important pour nous. Et je pense à l'époque aussi. Et quand Jésus il dit vous avez ce que vous avez lâché, vous en récupérerez beaucoup plus. C'est la réalité. Dieu va être bon et généreux avec nous. Mais il met une petite courbe à la fin. Et On va juste relire les derniers versets. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? Mauvais œil, c'est utilisé dans l'Ancien Testament pour vraiment parler de la jalousie. Donc, il met vraiment le point sur la jalousie et sur le fait que lui va donner une récompense. On sera tous récompensés, beaucoup loin au-delà de ce qu'on pouvait s'attendre. Et parfois dans la vie aussi, on a le fruit de notre travail. Mais la logique de Dieu, c'est pas la logique humaine. Il va donner ce qu'il a promis, mais il peut aussi donner entre guillemets plus à ceux qui veulent. Ou voilà, il est libre de faire ce qui est bon, ce que lui veut. Donc, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? Est-ce que nous, si on voit Dieu bien traiter quelqu'un, bénir quelqu'un, on ne peut pas se réjouir pour lui ? C'est finalement un cœur égoïste qui va regarder, bah, « Attends, moi, je n'ai pas eu autant alors que j'ai donné tellement plus ». Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a cet héritage, on a cette promesse d'une héritage qui vient tellement au-delà de ce qu'on mérite, de ce qu'on pouvait s'attendre, de ce qu'on pouvait espérer, et on devient membre du corps vivant de Dieu. Et donc, ayons cette attitude de cœur, comme Paul, qui donnait tout pour les autres autour de lui, qui a tout sacrifié pour que d'autres puissent connaître Dieu. Et nous, soyons aussi, réjouissons-nous pour la réussite des autres. Réjouissons-nous que là, des personnes pouvaient manger, même si ils n'ont peut-être pas autant travaillé que d'autres. C'est des questions, je trouve, vraiment d'actualité, parce qu'on a le SMIC qui augmente. Donc on se dit dans notre logique humaine, bah attends, c'est pas normal. Nous, on a fait des études, on a travaillé plus longtemps, on a des responsabilités, mais soyons heureux que voilà qu'il y a des personnes qui puissent survivre. Donc un encouragement. Les promesses de Dieu sont sûres. Voilà, il y a une promesse de vie éternelle. Pour ceux qui le suivent, qui vivent avec lui. En plus, on sera récompensé au centuple, bien au-delà des sacrifices que nous faisons aujourd'hui. Dieu va donner bien plus encore. Mais ne soyons pas étonnés si on est surpris par la grâce de Dieu. Ne soyons pas étonnés si, quand on est... dans le royaume des cieux avec Jésus, avec Dieu, qui est peut-être des personnes qu'on ne s'attendait pas à voir, qui est peut-être des personnes même qui ont des grandes maisons au royaume des cieux et qu'on ne s'attendait pas forcément à ce qu'ils vivent bien. Et remercions le Seigneur aussi parce que il donne bien au-delà et de manière généreuse. Et puis dans notre vie quotidienne, ayons une petite pensée aussi à cette logique quand on interagit avec les gens autour de nous. C'est pas parce que nous on fait plus ou on donne plus ou on a une meilleure position que eux n'ont pas aussi le droit de goûter à des bonnes choses. Amen.